Excusez-moi, bonjour.
Je m'appelle Hervé Maisonneuve.
Je vais un peu mieux me présenter, mais mon objectif, c'est de parler des publications scientifiques, donc destinées aux scientifiques. On verra ensuite avec François Gonon comment elles sont utilisées par les autres médias. J'ai des messages qui vont vous paraître peut-être un peu négatifs. On essayera de reconstruire. Parce que mon message, c'est que les publications ont été prises en otage par les institutions pour évaluer la recherche et allouer des ressources aux recherches. C'est-à-dire qu'un chercheur, il est bon s'il publie beaucoup. Et les chercheurs, je le dis bien et on va y revenir, honnêtes, ont fait ce qu'on leur a demandé. Ce qui fait que vous allez voir, je ne sais pas si vous serez convaincu, mais la moitié des publications scientifiques sont probablement fausses. J'ai des hypothèses, je ne suis pas le seul. C'est une hypothèse, hein, ce n'est pas une certitude, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Moi, je suis médecin de formation. Quand on est médecin, on doit déclarer ses liens d'intérêt, si on a des intérêts à droite ou à gauche, ça permet de dire un peu ce que je fais actuellement. Dans ma carrière, j'ai travaillé la moitié du temps dans du privé, des industries, et la moitié du temps dans des universités ou agences. Depuis 6-7 ans, je ne fais que de la formation à la rédaction de chercheurs dans plusieurs domaines, pas que de la médecine et pas qu'en France, parce que depuis que je suis jeune, j'ai toujours été engagé dans des comités de rédaction de revues, où j'ai surtout longtemps présidé une association de rédacteurs de revues. Donc je connais les domaines scientifiques, mais du côté segment STM, c'est-à-dire sciences techniques et médecine, je connais beaucoup moins le côté sciences sociales, mais on pourra en parler. Je participe aussi au comité de la revue Sciences et Pseudosciences que j'ai vu là, et j'ai une rubrique régulière, je fais 4-5 pages chaque fois, et ma rubrique, elle est en ligne gracieusement sur le site de la FIS, donc vous pouvez voir toutes les bêtises que je dis. Je suis parfois un peu agressé. J'ai 2-3 diapos, j'ai eu la flemme de remettre en français, mais on va parler de ce qui est au milieu, là. C'est-à-dire qu'on va parler d'une zone grise entre la vraie pratique, la bonne pratique, si on peut la définir, et quelque chose dont je ne vous parlerai pas, c'est la fraude. Et la fraude, elle est peut-être souvent très médiatisée, vous en entendez parler, parce que dès qu'il y a un cas de fraude, il sort de partout, hein, en science, mais les cas de fraude, il faut savoir qu'ils sont plutôt rares, c'est-à-dire le scientifique qui invente des données, qui les fabrique, c'est probablement plutôt rare, mais c'est très médiatisé. Tandis qu'il y a un milieu, là, qui est une zone grise entre il faut bien faire et frauder, qu'est-ce qui est intentionnel, pas intentionnel, et c'est de cette zone qu'on va surtout parler. Je prendrai un petit peu de temps sur 2-3 choses pour vous montrer des pratiques compliquées. Si j'ai des termes qui posent problème, vous m'arrêtez, c'est parce que je n'ai pas fait attention. Vous m'arrêtez et on les précise. Donc je reviens sur ce que je viens de dire là, et j'en suis très convaincu. C'est que la plupart des chercheurs sont honnêtes, alors que je vais vous décrire des pratiques qui consistent à bouger un tout petit peu avec les réalités, la pratique. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler, on change le test statistique pour arriver à ce qu'on veut, alors qu'on ne devrait pas. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et quand on est jeune, on n'ose pas le faire, puis on voit les autres le faire. Comme on voit les autres le faire, on se dit, voilà. Hein. Donc, si vous voulez, ça dérive un petit peu. Alors, on va partir des revues scientifiques pour aller voir les pratiques. Les revues scientifiques ont été, dans les années 1800-1900, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, essentiellement des revues de sociétés savantes, de communication entre les pairs. Et les objectifs à ce moment-là des revues scientifiques étaient ceux-ci. En gros, on prenait date pour un travail. Voilà, j'ai publié, donc j'ai pris date. On communiquait ces résultats à la communauté scientifique. Ça servait à former, à informer. On a après, mais on n'avait pas encore avant la Seconde Guerre mondiale, monter un système de certification et de contrôle par les pairs, on va y revenir, ça s'est fait plutôt à la Seconde Guerre mondiale à la fin, mais au début, il y avait beaucoup de discussions, donc la discussion se voulait un peu validation, et puis c'était l'archivage de la science. Les revues scientifiques se sont accaparées de revues de société, ça, alors qu'on pourrait aussi se poser la question, Est-ce que ça ne pourrait pas être les institutions, les universités qui auraient fait ça? Mais avant la Seconde Guerre mondiale, tout se gérait comme ça. Et puis, il s'est passé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ces quatre missions historiques, dans les années 70-80, ça a commencé à bouger un petit peu. Alors, le contrôle qualité, parce qu'on appelle la revue par les pairs, je vais vous montrer comment fonctionne une revue. Hein. Ça a bougé. Et dans ces années-là, exactement fin des années 60-70, il y a eu l'invention de quelque chose qui s'appelle le facteur d'impact, inventé par un documentaliste à Philadelphie qui ne savait pas comment s'abonner, il n'avait pas assez de budget, donc il s'est dit « je vais faire un facteur pour avoir la notoriété des revues, et moi, il faudrait que je m'abonne aux meilleures revues, et puis ça pourrait servir à peut-être drainer la publicité dans les revues, celles qui ont le plus de notoriété étant les meilleures ». Alors il a monté un indicateur basé très clairement sur la notoriété des revues et non pas sur la qualité des articles. Et cet indicateur, il est basé sur le nombre de fois où un article est cité par d'autres. Il faut bien réaliser que citer un article ne veut pas dire qu'il est bon, hein, ou quoi que ce soit. Et le message a été de dire, on va, nous, universités, dans un second temps, prendre cet indicateur parce que ça va être facile, on a un chiffre avec trois décimales, rendez-vous compte, un chiffre avec trois décimales. Quelle précision, hein ? Pour un corpus dans sciences techniques et médecine, et on est dans ce corpus-là, pour un corpus de 35 000 revues, mais il y en a moins dans le corpus-là, il y en a 6 ou 7 000. Hein ? Et quand un chercheur va publier dans cette revue qui a un haut facteur, cette revue elle peut s'appeler dans ma domaine médical le Lancet, le New England, du moment qu'un chercheur a publié dans cette revue, il est bon. On ne regarde pas ce qu'il a fait, hein. On regarde s'il a publié dans la revue. Hein, c'est l'indicateur. Et puis deuxièmement, on va se servir de ces publications pour allouer de l'argent aux recherches. Donc quand on veut donner de l'argent à un chercheur, on lui demande où vous avez publié. Donc, vous voyez, un indicateur de notoriété a été pris en otage par les institutions pour évaluer les chercheurs et allouer des ressources. Donc voilà un petit peu l'histoire telle qu'elle s'est passée. Alors reprenons le cycle d'un article. On va le prendre de deux façons. Un article scientifique, un chercheur, il va à un moment donné, pendant sa recherche, devenir auteur puisqu'il va écrire ses recherches avec des formats très standardisés, avec des règles très standardisées. Et une fois qu'il a écrit son manuscrit, il va l'envoyer non pas à ses confrères du labo à droite ou du labo à gauche de la même institution, lui demandant « qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que c'est bien ?» Il va l'envoyer probablement à une boîte noire. Il ne sait pas bien à qui il l'envoie. Il envoie, là, comme ça, un nom du revue, mais il ne sait pas toujours les hommes qu'il y a derrière. Donc son article, il va être dans les mains d'un rédacteur en chef, qui va le recevoir avec un comité de rédaction, d'autres scientifiques de la discipline. Et eux, leur objectif, c'est de dire « je publie ou je ne publie pas, je prends ou je ne prends pas ». Mais pour dire « je publie ou je ne publie pas », ils vont demander l'avis d'autres scientifiques du domaine, qu'on va appeler ici les relecteurs, « reviewer » en anglais, c'est pour ça que ce système s'appelle le système du « peer review », une revue par les pairs, dans le jargon. On va leur demander leur avis, ils vont, moi, rédacteur en chef ou comité de rédaction, me donner leur avis, et en fonction de ces avis, je vais dire oui ou non, je prends cet article dans la revue ou pas. Il est sûr que moi, rédacteur en chef aussi, si je suis là, c'est la revue de la Société Savante. Donc j'ai été nommé avec mon comité de rédaction par la Société Savante. Hein, je ne suis pas arrivé comme ça. Donc là, vous voyez le système de la publication qui s'est organisé au cours du temps. Et à la différence d'un magazine, à la différence d'un quotidien, il y a quelqu'un dont on n'a pas besoin pour que le système marche. Parce que ceux qui payent les revues, ce sont essentiellement des abonnements institutionnels de bibliothèques universitaires. Le chercheur lui-même, il ne sort pas 10 dollars ou 10 trucs pour acheter le numéro 2. Hein ? Donc si vous voulez, il y a quelqu'un qui est là, on n'a pas besoin de lui pour que le système marche. On a besoin de lui pour citer, pour faire d'autres choses, mais on a besoin de lui quand il est auteur, parce qu'il va citer. Donc si vous voulez, les revues scientifiques, elles ne font pas des enquêtes pour savoir qui les lit. elles ne vont pas demander à leur lecteur « qu'est-ce que vous voulez ?» Hein, ce n'est pas le problème. Alors qu'un magazine, Le Point, L'Express, de temps en temps, ils essayent de savoir ce que veulent les gens. Hein. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Ce qui fait qu'on tombe sur un cycle de l'article relativement complexe, avec des interférences. Hein. Donc des auteurs vont décider, vont écrire, vont choisir un journal, en fonction, un rédacteur en chef qui appartient à un propriétaire, on va soumettre, il y a des relecteurs, au moins deux, il y a la revue par les pairs, ça retourne aux auteurs qui révisent, qu'on peut rejeter. Donc c'est un cycle relativement complexe où vous le voyez tout de suite, les interactions des acteurs et les intérêts de chacun sont très différents. Mais quand je vous ai parlé de l'auteur, quand je vous ai parlé du rédacteur en chef, quand je vous ai parlé du relecteur et des propriétaires, il faut tout de suite s'imaginer que ce sont presque les mêmes gens qui sont dans une position un jour, dans une autre, un autre, et compagnie. On devient rédacteur parce qu'on a été bon chercheur, on est relecteur parce que... Donc vous commencez à voir les intérêts des uns et des autres, où il y a la famille qui se parle un peu discrètement. L'auteur, qu'est-ce qu'il veut être publié ? Si le rédacteur lui en chef lui demande de changer un test statistique ou de dire gris alors qu'il a mis noir ou qu'il a mis blanc, petite affaire, si je change, je suis publié. Donc si vous voulez, on peut se soumettre à des oukases qu'on n'accepterait pas ailleurs, sous réserve que ce journal prestigieux voudrait que je fasse ça pour être publié. Donc déjà, l'intérêt de l'auteur, lui, c'est d'être publié. Le rédacteur en chef, il a été nommé là parce que dans sa discipline, il a du pouvoir. Il a le pouvoir d'accepter ou de refuser. Et il sait très bien qu'en acceptant ou en refusant, il peut faire des carrières ou il peut jouer un peu. Donc, quand il a un article de ses élèves ou quand il a un article d'un élève d'un compétiteur, vous commencez à voir que déjà, des relations non scientifiques peuvent interférer avec la décision. Les relecteurs qui, dans le modèle encore qui est en train de changer, sont des gens de l'ombre parce que souvent on ne connaît pas leur nom. Ils sont anonymes et ils donnent leur avis et souvent l'auteur ne sait pas qui a donné l'avis. Est-ce que c'est un ami, pas un ami ? Est-ce que je vais, moi, relecteur, donner un avis alors que je sais ce que je lis, je sais qui c'est, tandis que lui, il ne saura pas qui je suis. Donc, si vous voulez, je peux faire traîner, je peux accélérer, je peux être plus gentil, pas plus gentil, pour des tas de raisons. Et en plus, le rédacteur en chef, qui est le comité de rédaction, tous les 3 ans ou tous les 5 ans, au congrès mondial de la société, à l'ordre du jour du conseil d'administration, il y a « est-ce qu'on renouvelle le comité de rédaction pour 3 ans ?» Donc, il y a les autres professeurs là-haut, au conseil d'administration, qui décide si on renouvelle ou pas. Donc là aussi, vous pouvez voir qu'il peut y avoir des interférences. Parce que si le rédacteur en chef m'a un petit peu emmerdé l'année dernière parce qu'il a refusé mes articles, je vais peut-être me poser la question si je revote pour lui. Hein ? Ou s'il a été un peu complaisant, ben on va peut-être le garder parce qu'il a tendance à publier les articles du conseil d'administration. Alors, je pousse un petit peu. Hein ? Je vais un petit peu loin. C'est pas la généralité, la plupart des gens sont honnêtes, essayent de faire fonctionner le système. Mais il faut bien comprendre que ce système, ce sont des interactions de gens qui sont à plusieurs endroits. Et toujours, lui que je mets, parce qu'il faut quand même qu'il soit quelque part. Je vais vous donner 2-3 observations ou chiffres. Ce sont des chiffres américains. Aux États-Unis, alors, ce n'est pas exactement les mêmes années, puis c'est pas bon, mais ça sort de ce rapport. En 30 ans, en gros, les postes de chercheurs académiques ont augmenté de 30%. En 30 ans, les postes de doctorants, peut-être futurs chercheurs conformes, ont augmenté de 90%. Alors les États-Unis forment aussi des étrangers, c'est difficile à comparer ça, hein, d'accord ? Donc vous voyez, le nombre de postes qu'on ouvre augmente de 30%, le nombre de doctorants de 40%, et le nombre de publications, selon les indicateurs, a augmenté dans le même temps de 350 à 450% quand on prend d'autres façons de faire. Donc dans la même période, vous augmentez les postes de 30%, vous formez 90% de plus de chercheurs, et vous augmentez les publications. Ça va, ça vous parle, ça. Si vous dites c'est plus facile de publier, parce que j'ai vu vous parliez des fausses revues tout à l'heure, le numérique a fait créer des fausses revues, mais qui souvent ne sont pas prises en compte dans ces bases de données, dans ces chiffres-là. Mais c'est vrai, c'est plus facile de faire. Il y a des données en France aussi qui ont été montrées au CNRS, en 10 ans d'écart, sur les curriculum vitae, les publications ont doublé, les jeunes chercheurs, en volume. Donc vous voyez, il se passe des choses. Et je résumerai ça, et nous y reviendrons. Oui, madame. Oui.
Alors, est-ce que c'est compté comme une revue pour chaque auteur? Parce que ça fait aussi beaucoup plus de publications.
Alors, tout ce que vous dites. Alors, attendez. Le nombre d'auteurs est très variable selon les disciplines. Vous êtes en sciences sociales, quand ils voient trois auteurs, ils se disent. Quand ils en voient 20 ailleurs, ils se disent qu'est-ce que c'est? Parce qu'en sciences sociales, nous, on est un ou deux d'habitude. Hein? Quand vous êtes en sciences médicales, on est dans les 20 à 30. Quand vous êtes en physique, ça peut monter à 1000, hein, au CERN ou des choses comme ça. Donc les pratiques sont d'abord très différentes, mais quand vous êtes un parmi 30 en médecine, ça compte pas comme un New England pour chacun. Alors la position peut changer parce qu'on donne plus de valeur au premier auteur qu'aux autres, hein, mais si vous voulez, on est dessus. Hein. Donc si vous voulez, ce que je résumerai là, et on y reviendra, on a eu une période bleue où les sociétés savantes avaient des vrais rôles, hein, elles étaient en face. On a eu une période rouge où les institutions se sont dit on va prendre en otage ces revues pour faire un boulot que nous, on devrait faire. Parce qu'évaluer nos chercheurs, on devrait lire ce qu'ils font et on devrait les interroger, on devrait voir. Mais on va prendre un chiffre qui sort de là-bas et puis ce chiffre avec trois décimales, hein, d'accord, va faire les carrières. Donc c'est une période et probablement, ce que je vous dis là, ce sont des choses dont on commence à parler depuis une dizaine d'années, hein, 10 à 15 ans, ça avait commencé avant. Hein. Ce que je vous dis là, il y a 20 ans, on ne le disait pas. Et je pense, moi, que la période verte va arriver, peut-être, et je me mouille, j'avais mis 2015 une fois, puis on m'a dit, vous trompez, hein, donc j'ai mis 2025. Je pense qu'avec l'électronique, l'ouverture, la transparence, tout ça, ça pourrait changer. Mais j'ai le droit d'être optimiste. Donc je dis souvent, est-ce qu'il faut partir d'une culture pop, qu'on appelle dans le jargon publish or perish, pour venir à une culture top, qui est l'ouverture et la transparence? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors je vais vous citer des cas, des choses comme ça, que j'ai prises dans un certain nombre de disciplines qui sont plutôt dans les sciences que je connais, mais il y a des exemples dans toutes les sciences. Dans mon domaine, dans le domaine pharmaceutique, il y a quelque chose qui a changé les gens, c'est-à-dire des chercheurs d'une firme qui s'appelle Amgen, en Californie, qui font des médicaments, et des chercheurs à la paillasse, hein, ils sont au labo. Hein, et ils lisent les grands journaux. Les grands journaux, ils s'appellent Science, Nature, Cell. Ils les lisent et ils se disent, tiens, ce qui a été publié dans Nature, ça pourrait peut-être un jour faire un médicament. Il y a peut-être des bonnes idées, des bonnes hypothèses. Donc, ils se disent, avant d'y aller, on va refaire ce qui est publié. Donc, ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Et ils ne sortaient pas leurs résultats avant, ils ne le disaient pas. Ils savaient très bien que dès que c'était publié, ils n'arrivaient pas à reproduire. Et puis en 2011, ces chercheurs ont dit, oh, tiens, on va publier ce qu'on trouve. Et ils ont dit, nous, sur, je crois que là, c'est sur 53 grands articles, dans des revues les plus prestigieuses. Hein, parce que les facteurs d'impact, quand j'ai mis là 20, c'est haut. Hein, hein, les plus hauts sont 50, 70. Et la plupart des revues sont en dessous de 2. Hein, la plupart, le gros volume. Hein, d'accord. Et ils en ont reproduit à l'identique que 11%. Alors, ça ne veut pas dire que tout ne marche pas, que tout est faux, parce que reproduire, c'est difficile. Hein, il ne faut pas en déduire que tout était immédiatement obligatoirement faux. Hein, ça a commencé à faire peur, hein, dans les communautés, et d'autant plus que tout de suite après, une autre firme a publié presque la même chose. Hein. Ils reproduisaient 25%. Ils ont vu les premiers publiés, ils se sont dit, nous aussi, voilà. Donc, les premières interrogations, on n'arrive pas à reproduire ce qui est publié. Donc, premier questionnement. Hein, je ne dis pas obligatoirement que c'était faux, de la fraude ou quoi que ce soit, parce que la température, le climat, des tas de choses peuvent expliquer qu'on ne reproduise pas quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, un petit peu avant et dans le même temps, il y a autre chose qui va être assez compliquée. Je vais prendre un tout petit peu de temps.
Parce que cette chose-là ne peut être faite qu'en médecine. L'hypothèse est de savoir est-ce que dans d'autres disciplines, ça se passerait pareil. Pourquoi qu'en médecine? Parce que dans le développement des médicaments, et là ce sont des antidépresseurs, quel que soit leur nom, dans le développement des médicaments, les firmes sont obligées de donner les rapports cliniques complets aux agences avant de mettre un médicament sur le marché. Et donc les firmes n'ont maintenant plus le choix de sélectionner ce qu'elles vont donner pour dire ça marche ou ça marche pas. Elles sont obligées de déclarer tout ce qu'elles font et de donner tous les résultats. Et là, c'est l'exemple américain de la Food and Drug Administration. Donc là, vous avez des antidépresseurs. Chaque rectangle, c'est une étude clinique sur 500 malades, 1000 malades, peu importe, d'antidépresseurs, souvent comparatifs pour montrer si l'antidépresseur marche. Alors, vous regardez les décisions de la FDA. La Food and Drug Administration a dit « ce médicament marche, ce médicament ne marche pas », et là, ils ont une classification « questionable », ça marche un peu moins, ou je ne suis pas très sûr. Donc la FDA donne des réponses. Là, on part d'une base, et là, on a toute la science. Il n'y a pas une sélection qu'on a donnée, tout ce qui avait été déclaré. Et alors, après, on se pose la deuxième question, qu'est-ce qui a été publié de ce qui a été soumis à la FDA? Alors, première observation, quand ça marche, publié 37 sur 38. Donc, quand ça marche, c'est toujours dans les journaux, par publié. 37 sur 38. Quand ça ne marche pas, négatif, il y en a eu 8 seulement de publiés sur 24. Donc, quand ça ne marche pas, on a tendance à ne pas les publier. Et donc, ça ne se voit plus. Ce n'est plus dans la science, ce n'est plus dans la publication. Avec cette petite remarque sur les 8, il y en a qui sont publiés en conflit avec la FDA. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire sur les 8, il y en a 5 qui sont publiés en disant que ça marche. Vu ? Parce qu'on fait des sous-groupes, on sélectionne, on change les tests et compagnie, et on montre que ça marche. Et au milieu, bon, les questionables, c'est aussi un peu pareil. Donc c'était la première fois où on se disait ce qui est publié n'est qu'une partie de ce qui est fait. Donc quand on lit les journaux, on lit peut-être beaucoup plus de positifs que la vie elle-même. Alors ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui va dans les journaux? La même base de données a encore récemment été agrandie, réanalysée différemment. Alors ce ne sont pas exactement les mêmes essais, mais c'est à partir de la même base. Et c'est pour aller un petit peu plus loin. Donc là, vous avez des antidépresseurs et il y en a 105. Et ils sont là. Donc vous avez 105 dossiers, comme tout à l'heure, d'antidépresseurs. Quand c'est vert, ça marche. Quand c'est rouge, le médicament ne marche pas. Alors premièrement, on va dans les journaux. On retrouve à peu près la même chose que tout à l'heure, puisque dans les journaux, 52 des 53 qui marchent ont été publiés et 25 des 52 négatifs ont été publiés. Donc même chose, un biais de reporting bias, un biais de rapport, on ne publie pas tout. Et alors ensuite, on va regarder, comme tout à l'heure, est-ce qu'ils ont été publiés, positifs ou négatifs? Et vous voyez que des ronds rouges sont devenus dans l'article, comme tout à l'heure, verts. C'est-à-dire que des essais qui ne marchaient pas dans la publication sont rouges. Et puis après, la lecture, on va faire une autre petite chose et on va chercher ce qui s'appelle les spins. Dans la technique des journaux, un spin, le résumé le plus souvent, conclut quelque chose qu'on ne peut pas dire à partir de l'article. Oui, il vaut mieux en rire, oui. Donc le résumé conclut quelque chose qu'on ne peut pas dire à partir de l'article. C'est sûr que si vous faites des souris et que vous montrez que vous les guérissez avec l'Alzheimer, ça n'intéresse personne. Donc vous avez intérêt de mettre dans le résumé que ça marche probablement chez l'homme. Là, ça commence à être un spin, vous voyez? Alors vous n'avez pas le droit de le dire. Donc le spin, c'est on va un petit peu au-delà. Alors de ces essais, quand on va chercher les spins, on s'aperçoit qu'il y en avait maintenant plus que 4. Ils sont réellement négatifs si on se tient là-dessus. Et puis ensuite, il y a encore le biais qui s'appelle le biais de citation. C'est-à-dire qu'on montre que ceux qui sont positifs sont cités par d'autres 3 fois plus que ceux qui sont négatifs. Donc vous voyez cette cascade à partir de tout. Et on peut le montrer sur des modèles comme ça parce qu'il y a un enregistrement de départ dans des agences publiques de toute la recherche sur là-dessus. Mais dans beaucoup d'autres domaines de la recherche, il n'existe pas cette base où on enregistre toute la recherche quelque part. Donc on ne sait pas si c'est probablement bien mieux ailleurs. C'était pas trop complexe. Je n'ai pas dit que tout était bien, hein. On est d'accord. Alors j'ai quand même de bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas qu'en médecine. Alors je vous ai sorti deux exemples dans l'animal. Là, vous avez des molécules, marquées différemment, quelles que soient les molécules, qui ont été testées chez des souris. C'est des souris d'un modèle d'une maladie qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire une maladie dont on meurt et pour laquelle on n'a pratiquement pas de solution de traitement. Hein, une maladie dont on meurt plus ou moins vite, ça dépend. Hein. Et alors, ces médicaments ont été testés chez la souris et ils ont montré, et chaque trait, c'est une publication avec ce médicament, c'est un article. Et les articles, ils montrent que la survie, elle augmente de 10%, 15%, 20%, voire 35%. Maladie, on n'a pas de médicaments, on n'a rien chez l'homme. Il y a quand même des publications qui montrent que chez la souris, ça marche sur un modèle. Donc dans les 9 cas, les médicaments ont été testés chez l'homme. Dans les 9 cas, rien n'a marché chez l'homme, jamais. Sauf un petit quelque chose sur un qui s'appelle le riluzole, qui est une petite étoile. Alors on se dit quand même, 9 molécules qui augmentent la survie des souris de 10 à 20%, 0% chez l'homme, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, M. Perrin, qui a décrit le modèle souris de cette maladie, a refait les 9 expérimentations dans les mêmes conditions et dans les conditions de description du modèle de son laboratoire, et lui, il a montré que l'augmentation de la survie, c'était le noir, quand il a refait toutes les expériences. C'est pas bien, hein ? Donc, chez l'animal, c'est peut-être encore pire. Il vient d'y avoir un pseudo-scandale en Angleterre où un test d'adjuvant de vaccin tuberculeux a été essayé en Afrique du Sud par des chercheurs d'Oxford. 2300 gamins, on a montré que rien ne se passait et on est reparti dans les modèles animaux. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas tout bien regardé dans les modèles animaux parce que ça ne marchait pas chez l'animal alors que l'autorisation de l'essayer chez l'homme avait été donnée. Parce que les dossiers qui avaient été soumis aux autorisations avaient caché un certain nombre d'autres choses et étaient mal faites. Donc, dans la médecine, le problème, c'est que ces bricoles, on arrive rarement, mais on y est arrivé plusieurs fois, à montrer des effets délétères chez l'homme. Je parle de petites pratiques, hein, je ne parle pas de fraude. Hein. C'est des trucs, des manquements, ce rapport, on ne va pas le mettre, on va revoir différemment. Hein. Ce qui fait qu'aux États-Unis, sur un certain nombre de bases, des gens ont estimé que sur la recherche animale, probablement la moitié ne servait à rien, et ça correspond à 28 milliards de dollars sur 56 milliards. Alors, pour un certain nombre de faits qui sont là, mais en gros, il y a des hypothèses comme quoi peut-être la moitié de la recherche. Alors, c'est toujours difficile hein, de dire ça. En psychologie, dans des études sur des comportements de sciences sociales, des comportements de société ou de quoi que ce soit, il y a eu, c'est publié en 2015, je vous le résume, et c'est là que ça a commencé à faire quelque chose, c'est-à-dire que des chercheurs à Charlottesville se sont dit on va essayer de refaire ce qui est publié. Ils ont pris 100 articles dans les meilleurs journaux et avec de l'argent d'une fondation, ils ont eu des millions de dollars d'une fondation, l'objectif était de refaire ces 100 travaux et qu'on a refait faire dans d'autres labos en communiquant avec ceux qui avaient fait la première expérimentation, donc en toute ouverture. Hein. On pouvait leur téléphoner, leur demander tout. Hein. Donc là, c'était très ouvert en psychologie. Et là, on a montré que 25% on arrive à les reproduire, 25% jamais, et que la moitié, on avait des résultats gris. Et on a montré aussi que quand on les reproduisait, ce qui s'appelle la puissance statistique, c'est-à-dire le degré de force, était en général diminué de 2. C'est-à-dire que l'effet était moins important. On reproduisait un effet moins important. La psychologie a vécu des drames hein, dans ce domaine de la réplication, parce que c'est une des disciplines qui, avant 2015, dans les années 2012-2013, avait commencé à répliquer. C'est-à-dire des jeunes chercheurs se sont dit « tiens, je vais refaire ». Et il y a eu des gros conflits dans cette discipline qui ont été appelés le « repligate », parce que ces gens qui voulaient refaire ont été accusés par d'autres d'avoir pas d'idées, d'avoir pas d'argent, de perdre leur temps puisque c'était publié, il fallait pas refaire. Donc même refaire quelque chose qui est publié n'est pas toujours bien vu parce que c'est un chercheur qui a pas d'idées. On pourrait hein, penser ça. Donc voilà l'état de certaines choses. Alors derrière tout ça se pose la question, pas obligatoirement de savoir si c'est juste ou si c'est faux, de pourquoi est-ce que la science est réplicable ? La science publiée est réplicable. Il y a eu une grosse enquête qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Nature, où ont répondu 1600 chercheurs de différentes disciplines. On leur a posé un certain nombre de questions et je vais en reprendre deux. La première question qu'on leur pose, dans votre carrière, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de refaire une expérience déjà publiée ? Et avez-vous pu la reproduire ? Alors là, c'est de l'enquête. Hein. On n'est pas, tout, comme tout à l'heure, on va refaire de l'enquête. Il faut faire un peu plus attention à un certain nombre de choses. Là, ce sont des chimistes, des biologiques, des ingénieurs, de la médecine. Je n'ai pas pu reproduire, alors ça, c'est je n'ai pas pu hein, reproduire l'expérience de quelqu'un d'autre dans 60-80% des cas. Et je n'ai pas pu reproduire mes propres expériences. Dans la moitié des cas, les gens déclarent, même pour expérience, je n'ai pas pu. Ça, c'est encore assez dépendant des disciplines. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Moi, je connaissais pas quelque chose il y a 4 ans, parce qu'un étudiant lève le doigt et me dit « vous parlez jamais du one-shot ». Alors maintenant, je suis allé explorer ce qu'était le one-shot, peut-être que vous connaissez. Ça se fait beaucoup en chimie ou en biochimie, il y a des labos, et j'ai vu un labo à Paris qui faisait le one-shot, hein. Le one-shot, c'est mon petit gars, là. Tu arrives dans le labo, hein. Quand tu fais une expérience et qu'elle marche, tu ne la refais pas. Et quand tu fais une expérience qui ne marche pas, tu la fais 10 fois. Ça s'appelle le one-shot dans le jargon. Non, vous connaissiez ? Vous avez pratiqué ? Donc, si vous voulez, scientifiquement parlant, ce n'est pas logique. Hein. Il faudrait refaire les 2 10 fois. Hein. Donc ça, c'est du jargon, c'est du one-shot. Et ce jeune étudiant ne s'était pas rendu compte de ce que c'était quand il m'a posé la question. Alors après, je suis allé discuter avec lui, on est allé voir. Hein, et moi, je ne connaissais pas cette expérience. Et je l'ai vu que dans d'autres pays aussi, c'était pareil quand on en parle. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui connaissent ce jargon-là, que je ne connaissais pas. Voilà, donc, si vous voulez, ce sont des pratiques. Donc, les gens disent, j'arrive pas à refaire la moitié de ce qui est publié, que ce soit de chez moi ou de chez un autre. Alors que ce soit de chez moi, c'est même surprenant. Hein. Alors, et la deuxième question, on leur dit, mais pourquoi il y a ça ? Hein ? Pourquoi c'est ça ? Alors, les réponses sont les suivantes, vous avez des pourcentages. La première réponse, c'est le selective reporting, c'est-à-dire qu'on met dans les articles une partie de ce qu'on a fait. On ne raconte pas toute l'histoire. Donc, quand on publie quelque chose dans une grande revue, qu'on a une étude qui a duré 3 ou 5 ans, on va prendre ce qui arrange... Et on ne va pas tout mettre dans l'article. Ça s'appelle le selective reporting. Hein. On va mettre que ce qui nous arrange. La deuxième chose, c'est la pression à publier. La pression, on va revenir là-dessus. On presse les chercheurs à publier. On les juge sur du volume, on les juge sur des citations, on ne les juge pas sur la qualité. Hein. La troisième raison, c'est la puissance statistique est mauvaise ou l'analyse est mal faite. Hein. Hein, comme on dit, des méthodes nulles donnent des résultats. On peut le dire comme ça. La troisième raison, ça a jamais, on ne l'a pas répété chez nous, on ne l'a pas suffisamment fait. Hein. Ensuite, ils disent qu'il n'y a pas assez d'encadrement des jeunes. Et quand on voit au cours du temps, moi j'ai discuté avec des biologistes, par rapport à il y a 30 ou 40 ans, des jeunes qui arrivent sont moins encadrés qu'il y a 40 ans. Moi je vois, vous me parliez de M. Corvol qui était là. M. Corvol explique que quand, dans son début de carrière, quand on travaillait sur des lignées de cellules, hein, il y a 40 ans, on refaisait en début d'expérimentation un karyotype. Un karyotype, c'est qui permet de savoir sur quelles cellules on travaille. Et c'était obligatoire. On refaisait immédiatement un karyotype dans le labo pour être bien sûr que c'était la bonne cellule. Mais ça, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et je vous montrerai un exemple où les gens se trompent de cellules parce qu'on n'a pas contrôlé quelles cellules on avait. Donc les mauvaises méthodes, les données originales ne sont plus bien disponibles, et vous voyez que fraude vient en bas. Hein. Dans les sciences du management aussi, il y a beaucoup de descriptions là-dessus. Il y a beaucoup plus de descriptions. Là, je vous passe les chiffres, c'est à partir d'une centaine de thèses dont on a regardé les publications, des thèses de management, dont on a regardé les publications, et on a comparé les publications au contenu de la thèse elle-même. Hein, et on montre très bien que dans les publications, on a réinventé des hypothèses pour correspondre au résultat. Alors que dans la thèse qu'on avait passée, on était plus clair, hein, mais comme il fallait publier et qu'on ne pouvait pas tout dire, on a rechangé. Alors, ils ont un jargon dans certaines disciplines, ils appellent ça l'effet chrysalide. Chrysalide, ben, c'est-à-dire que d'un ver, on a un beau papillon qui sort. Hein. Donc c'est un jargon dans certaines disciplines. Et faire l'hypothèse... La démarche de recherche, c'est avoir une question, ne pas la changer, trouver la méthode pour répondre à cette question, et quels que soient les résultats, ils s'imposent à nous. Mais certains, et c'est de la mauvaise méthode, les résultats ne me vont pas, ben, je dis que ma question, c'était celle-là. Hein, donc je change ma question, et comme ça, les résultats vont. Ça, c'est une mauvaise démarche scientifique. Et les sociologues, derrière, montrent, c'est à partir de ce journal, et vous m'excuserez, je ne l'ai pas traduit, je vous le fais plus rapidement, montrent qu'un jeune chercheur honnête, il commence sa carrière, il est dans un labo, il fait des trucs qui ne marchent pas bien, donc... Et il s'aperçoit que ces articles sont rejetés parce qu'ils racontent des histoires vraies, mais les histoires vraies, elles ne sont pas excitantes. Donc, ces premiers articles, ils sont rejetés parce que ça ne va pas, alors qu'ils pensent avoir bien travaillé. Moi, j'ai vu une jeune en neurosciences, je vous le dirais, qui a été dans ce cas-là. Elle a passé 2 ans et ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais il a fallu 4 ans pour montrer que c'était elle qui avait raison et pas la littérature. Hein. Elle était bloquée. Donc, ensuite, on est bloqué par des reviewers qui n'aiment pas que ça aille contre. Hein, et il s'aperçoit petit à petit qu'il n'a pas de poste et qu'il n'a pas de job, qu'il ne fait pas la progression comme des autres. Donc il envoie d'autres qui vont plus vite que lui hein, et qui arrivent à publier. Puis il voit des petites choses qui se demandent pourquoi ça se passe comme ça. Et puis après, quand il rentre chez lui, son compagnon, son conjoint... lui dit « on devait changer de voiture », il répond « on changera dans 5 ans parce que je n'ai pas eu de promotion ». Donc il commence à être dans des situations un petit peu compliquées, c'est-à-dire qu'il voit des autres avancer pour des petites choses. Hein. On a changé le test, mais on publie des choses qui marchent. Donc comme il voit que tout le monde le fait, que ça satisfait tout le monde, il commence à bouger un tout petit peu. Et sans dire que ça devienne la norme, il voit que tout le monde est comme ça, donc ça ne pose pas de problème. Et finalement, il commence un petit peu à rentrer dans ce qu'on appelle ces pratiques discutables en recherche, alors qu'on n'est pas dans la fraude. Je répète bien, hein, il ne va pas obligatoirement inventer. Je vous redonne d'autres pratiques et on va essayer de rentrer là-dedans pour vous montrer aussi autre chose. Ce jeu où on a demandé à des chercheurs honnêtes de publier beaucoup et de citer beaucoup, parce que plus vous citez, plus vous augmentez la notoriété des revues, tout le monde s'y est mis. Alors c'est très difficile de questionner les gens là-dessus. Là, il y a une très grosse étude qui a été très difficile à faire aux États-Unis, dans tous les domaines de la science. Finalement, il n'y a eu que 12 000 réponses, ils ont été déçus avec beaucoup de travail, mais il y a quand même 12 000 réponses. Et les questions qu'on a posées à ces gens, qui étaient soit en bleu dans les sciences de la santé, en rouge dans les sciences de l'ingénieur, en jaune dans la biologie, en violet là, dans les sciences sociales, et ici dans le management. Alors, les questions qu'on leur a posées, c'est d'abord, est-ce que vous avez l'habitude d'ajouter des auteurs au manuscrit, des auteurs qui n'ont rien fait dans le travail? Alors, 30% vous répondent, oui, moi je mets les copains dessus, et puis eux, ils me mettent quand ils font des trucs, on se renvoie à l'ascenseur, on met les copains. Donc 30% disent, là, c'est, oui, non, mais ça, c'est normal. Donc là, déjà, c'est une pratique. Est-ce que vous faites ce qui s'appelle les coercive citations? Les coercive citations, c'est-à-dire le rédacteur en chef, quand il accepte mon article, il me demande de citer des articles qui ont plus ou moins rapport avec mon travail pour faire augmenter la notoriété soit de sa revue, soit celle de la revue d'un copain. hein, parce qu'on s'entend entre des revues, il y a des cartels de rédacteurs, ils s'entendent entre eux. Hein, moi, je ferais citer ta revue pour augmenter la notoriété. Donc là, est-ce que vous, auteur, vous acceptez de citer des choses alors que ça n'a rien à voir avec votre travail, mais c'est la revue qui veut. C'est borderline. Hein, Donc 10% disent oui, ça j'ai l'habitude. Hein. Et est-ce que vous avez l'habitude d'ajouter des citations, vous-même, hein, la vaste des auteurs, des citations qui n'ont pas beaucoup de relation avec le travail? Alors ça, c'est l'art de la citation. J'ajoute les citations du comité de rédaction, j'ajoute les citations des reviewers potentiels. J'enlève les ennemis, je rajoute les amis, je vais faire notoriété. Donc. Et là, vous voyez, il y en a encore 20% qui disent oui, là, sur les citations. C'est très variable selon les disciplines. Oui, attention, hein, c'est très variable selon les disciplines et aussi les continents. Je veux bien qu'on dise que c'est les Américains, mais on pourrait parler de certains Européens aisément. Alors, les références, vous savez, un chercheur, il a l'habitude, à la fin de son article, de citer d'autres, on est toujours dans ce problème-là, de citer d'autres pour argumenter quelque chose. Ou quoi. Donc, à la fin d'un article, vous avez 30 autres articles qui sont référencés pour dire, voilà, c'est en fonction de ça. Hein. Sur des grands nombres, combien de fois la référence qu'il cite ne contient pas ce qu'il lui fait dire? Vous mettriez quel chiffre, là, la croix rouge? 10%? 100%? Non, 100%. Donc, en gros, sur des grands nombres, sur certains échantillons, c'est 25%. Dont, tenez-vous bien, la moitié de ces 25% font dire autre chose ou l'inverse à l'article. Alors, je sais qu'on est sur la digestion, mais on va passer un petit peu de temps sur cette figure que je vais essayer de vous résumer, pour vous montrer aussi comment s'orientent des concepts et comment vont des concepts. Hein. On va prendre un peu de temps. Chaque rond, c'est un article. D'accord? Ça, c'est clair. Chaque flèche, chaque trait, c'est cet article à citer celui-là. Hein. Il y a 120 articles, je ne m'en rappelle plus combien. Hein. Et il y a 600 traits. Hein. Donc, c'est clair? Chaque rond est un article. Chaque trait, c'est cet article, cite celui-là. Là, nous sommes en 1992 et là, nous sommes en 2007. D'accord ? Là, c'est au cours du temps. Je vous le fais bref, c'est un concept où on met une substance, peu importe, qui s'appelle la bêta-amyloïde, sur du muscle et on regarde si cette substance, elle enflamme le muscle ou ça ne fait rien. Donc ça, c'est simple. Et ça, c'est à la paillasse. C'est au laboratoire. Ce sont les premières études sur le concept, et ces premières études à la paillasse, il y en a eu 11 publiées, il y en a 6 qui disent « il ne se passe pratiquement rien, quand vous mettez la substance sur du muscle, il ne bouge pas », et il y en a 5 qui disent « quand on met la substance sur le muscle, ça l'enflamme ». Donc là, il ne se passe rien, et là, ça se passe. Alors après, vous voyez tous les articles qui ont cité les premiers concepts de la théorie. Là, ce sont des revues générales, là, ce sont que des modèles animaux, peu importe, et là, ce sont des études, dont certaines humaines ou d'autres études. Et vous montrez qu'au cours du temps, sur leur corpus d'articles sur ce sujet, les 5 articles qui disaient « ça marche » ont été cités 94% dans volume, et les 6 articles qui disent « ça marche pas » ont été cités dans 6% des cas. Donc vous voyez cette dérive, je cite ce qui m'arrange, et je ne dis pas qu'il y a des choses qui vont contre. Alors, ça paraît simple comme ça, mais quand on relit en 2009 du travail ces 5 articles et les autres, on en classe certains de autoritaires. Autoritaire, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que la conclusion de l'article puisse être soutenu par les résultats qu'il y a dans l'article. Donc en plus, je suis en train de vous dire que ceux qui étaient positifs, alors c'est sûr que c'est la lecture à 15 ans plus tard, mais que ceux qui étaient positifs, quand on lit bien les articles, on a l'impression que ça ne marchait pas. En plus, quand on regarde ceux-là, vous avez vu les flèches, il y en a qui sont bleues. Bleu, c'est dans le jargon des journaux, c'est ce qu'on appelle la diversion. C'est-à-dire qu'on les cite en leur faisant dire l'inverse de ce qu'ils disent. Quand ils sont bleus, on les a cités en disant « ça marche », alors que ça ne marchait pas. Donc vous voyez, probablement, dans certains domaines, le chercheur a tendance à citer ce qui l'arrange, à occulter ce qui ne l'arrange pas, et ça peut faire évoluer des concepts qui peuvent ensuite disparaître. Ça, c'est à peu près clair, ça ? Ça vous surprend, j'espère. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, de la biologie, j'ai pris des images anciennes parce qu'elles sont faciles à voir. Là, vous avez le laboratoire, et là, vous avez l'article. Là, c'est le laboratoire. Il y avait ça dans le laboratoire, il y avait ça dans l'article. Là, c'est le laboratoire, il y avait ça dans le laboratoire, il y avait ça dans l'article. C'est pas exactement pareil, hein. Alors ça, c'est Photoshop, hein. C'est du métier, ça se fait. Donc c'est 20% des articles actuellement de la revue Nature ont au moins des images bricolées, là, c'est effectif. Dans la grande revue Nature, et ils ont quantifié ça avec Photoshop, ils sont allés rechercher, 20% des images des articles acceptés, hein, pas refusés, acceptés, ont des bricolages. Là, c'est pas de la fraude, c'est de l'embellissement vrai. Parce que ce point dans le labo est disparu dans l'article, et ceux-ci sont devenus comme ça dans l'article. Là, c'est de l'embellissement, mais tout à l'heure, c'était de la fraude. Là, c'est de l'embellissement, et tout à l'heure, c'est de l'invention. Ah oui, on joue. Ouais. Là, c'est de l'invention, tandis que là, c'est de l'embellissement. Donc, depuis 2005, il y a toute une littérature sur ces choses-là. Moi, j'en ai écrit, j'en ai là, vous en verrez. Hein. Ça a commencé probablement en 2005, la littérature sur cette chose-là, avec un article qui a été très médiatisé, pourquoi la plupart des résultats sont toujours faux. C'est un article compliqué d'un statisticien américain qui est très cité, qui a posé des problèmes. Donc, il y a une littérature essentiellement dans les sciences techniques et biologiques. Et je vais vous prendre deux paragraphes du rédacteur en chef d'une revue prestigieuse en médecine, puisqu'elle s'appelle le Lancet, hein. Et le rédacteur en chef avait été convié à une petite réunion fermée de 70 personnes à Londres, d'un jour et demi, pas de portable, pas de téléphone, pas d'enregistrement, et ils avaient tous signé qu'ils ne devaient pas parler. Donc les 70 pontes de la biologie anglaise, un jour et demi, travaillent sur la question de reproductibilité, et on dit, on verra ce qu'on dira après. Alors lui, il a tout de suite, le lendemain matin, craché dans la soupe. Il s'appelle Richard Horton, et je vous ai traduit deux paragraphes de son éditorial. On va juste les lire. Rédacteur en chef du Lancet, sortant de cette réunion. « La mise en accusation de la science est simple, une grande partie de la littérature, peut-être la moitié, peut-être tout simplement fausse. Gangrénée par des études avec de petits échantillons, des effets minuscules, des analyses exploratoires invalides, des conflits d'intérêts, j'ai pas parlé des problèmes de conflits d'intérêts évidents, une obsession de poursuivre les tendances à la mode, d'importance douteuse, la science a pris un virage vers l'obscurantisme. Comme l'a dit un participant, des méthodes nulles donnent des résultats. L'endémie apparente est alarmante. Et dans leur quête pour raconter une histoire convaincante, les scientifiques sculptent trop souvent leurs données en fonction de leur vision préférée du monde, où ils écrivent des hypothèses. C'est d'ailleurs bien écrit. Hein, Alors, la suite de cet éditorial est intelligemment écrite parce qu'elle explique que les chercheurs ne sont pas obligatoirement fautifs. Alors il commence à dire « Les revues, les rédacteurs méritent leurs critiques, nous encourageons les pires comportements, nous voulons des facteurs d'impact et une concurrence malsaine, notre amour de l'innovation, parce qu'on publie si c'est innovant, et qu'on revient à cette histoire, le chercheur qui voudrait publier quelque chose qui est déjà publié, on lui dit « circule, c'est pas intéressant », alors que valider quelque chose peut être très intéressant. Pollue la littérature, les revues ne sont pas les seuls mécréants, les universités sont dans une lutte pour l'argent, le talent, pas mal, évaluation réductrice, comme la publication, donc tout le monde est dans ce jeu, et tout le monde se regarde, et tout le monde est autour de tout ça. J'en reviens à mon grand cercle que j'avais au début. Et je vous ai dit que j'ai parlé du milieu. Je n'ai pas parlé de la vraie fraude, de la vraie invention. Je n'ai pas parlé de quelque chose dont on a vu à peine, c'est ces jeunes qui ne sont pas encadrés, qui font des erreurs sans s'en rendre compte, parce qu'on leur dit « il faut aller vite, il faut rendre très vite, dépêche-toi, ils n'ont pas fait de cours de stats, tant pis, fais-moi les stats hein ». Et ils ne sont pas encadrés. Hein. Il y a une pièce de théâtre en Hollande d'une demi-heure là-dessus, sur le jeune qui arrive dans un laboratoire. Hein. et qui a son premier entretien avec son chef de laboratoire, hein, vous êtes en train de faire votre thèse, donc le premier entretien pour faire sa thèse, c'est « Monsieur, j'ai envie de travailler là-dessus, c'est intéressant », et lui, il n'entend rien. Il lui dit « Écoute, ta thèse, deux articles, en anglais, en premier auteur, dans une revue qui a un facteur d'impact supérieur à ». Le reste, il s'en fout. Il n'écoute pas. Je caricature, non ? Je caricature, j'espère. Donc, si vous voulez, on pousse des jeunes en compétition nombreux à leur dire « il faut aller là-dedans ». Donc, on a parlé du massage des données, des changements de critères, du choix des sélectifs, des références erronées, changement de test, je ne vous ai pas montré, les manipulations d'images, les conflits entre auteurs, c'est énorme, les études trompeuses, la non-publication de ce qui est financé. Et M. Gonon vous parlera de la dernière chose, les communiqués de presse embellis, je crois. Donc, qu'est-ce qui est intentionnel, qu'est-ce qui n'est pas intentionnel? Vous voyez que c'est une espèce de zone grise, là, au milieu, où on voit les autres. En psychologie, les sept péchés mortels, il y a un gros livre qui a été publié par un chercheur en psychologie de Cardiff, et ça recoupe ce que je viens de dire. Hein. D'abord, il y a tout ce qui est la convenance sociale, hein, donc il y a un certain nombre de choses, il y a toute une littérature sur « on fait de la convenance sociale », la flexibilité cachée, on a bougé un certain nombre de choses sans le dire, le manque de fiabilité, l'accumulation de données, des chercheurs, moi j'en ai vu, ils ont tellement de données qu'ils ne savent plus quoi publier, ils en ont des placards, et ils disent « il faudrait que je m'arrête de travailler 2 ans et j'ai de quoi publier ». La corruption existe un peu, la fermeture des données et aussi le comptage des haricots. Je terminerai sur ce que j'avais dit tout à l'heure, en revenant sur ces diapos. On est probablement actuellement dans la culture pop, hein, c'est-à-dire que l'article, ça devient marketable, ça devient vendable. Hein, quand j'ai publié dans une grande revue, ça a une valeur marchande. Et quelle que soit la qualité, c'est la notoriété de la revue qui fait la valeur marchande. Les mauvaises recherches peuvent y aller. Il vaut mieux construire un CV que s'intéresser au progrès. Avoir écrit 800 articles est considéré comme une performance alors que ça devrait être honteux. L'augmentation du volume n'a pas été proportionnelle à la qualité. Et aussi, il y a des chercheurs qui perdent leur temps à vulgariser la science et ils seront pénalisés dans leur carrière. Donc, on devrait aller vers cette science ouverte qui veut dire il faut donner vos résultats, il faut tout ouvrir, on devrait tout voir. Et en France, il vient d'y avoir en fin décembre des journées de la science ouverte et la ministre pousse beaucoup pour ce qu'on appelle la science ouverte. Il faut collaborer, les chercheurs ils ne peuvent plus cacher leurs données, elles doivent être montrées à tout le monde, mais ça c'est encore un mouvement lent et qui va demander beaucoup de temps et qui permettrait peut-être d'avancer un petit peu. Et voilà mon propos, et mon propos je le terminerai là-dessus en disant que l'entreprise de la science elle est quand même très compliquée. Parce que vous avez un chercheur au milieu, il y a les médias, il y a le public, il y a les financeurs, il y a les incentives, il y a les mauvaises pratiques, il y a les journaux de société, il y a les sponsors, il y a l'éducation, il y a la formation, et que là, c'est tout intriqué avec des gens qui passent d'une case à l'autre ou quoi que ce soit. Je vous remercie.